France Inter. Alibadou. Le 7-9.
Mardi 23 avril, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la décision est tombée. France Télévisions a gagné. En 2024, les Jeux Olympiques de Paris seront diffusés sur les chaînes du service public. Vous saurez tout dans le journal sur les coulisses d'une compétition très serrée pour remporter ce contrat. Les autres titres, Bernadette.
L'ombre de Daesh derrière les attentats du Sri Lanka. Le groupe islamiste local pointé par l'enquête aurait pu servir de support au groupe État islamique. Européenne, gauche éparpillée, électeurs désemparés ont fait le point alors qu'aujourd'hui marque le top départ pour le dépôt des listes. Sondage France Inter Odoxa, un léger effet Notre-Dame pour Emmanuel Macron. Paludisme, nouvel espoir avec le premier test grandeur nature du vaccin le plus avancé. Et sur les écrans aujourd'hui, 90s ou le bel été de l'adolescence.
Invité de France Inter ce matin, bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Votre invité à 7h50.
Dépôt des listes officielles aujourd'hui, vient de dire Bernadette. Eh bien, nous recevons Florian Philippot, le président des Patriotes, tête de liste aux européennes. Son ancien parti, le Rassemblement National, a renoncé à la sortie de l'Union. Il reste, lui, pour le Frexit. Pourquoi ? Réponse à 7h50.
À 8h20, deux jours avant la conférence de presse d'Emmanuel Macron, comment comprendre le malheur français ? Pourquoi les Français sont-ils si pessimistes ? C'est le paradoxe qu'explore le démographe Hervé Lebras dans un essai qui vient de paraître. Le titre, Se sentir mal dans une France qui va bien, qui paraît aux éditions de l'Aube. Il sera l'invité Hervé Lebras du grand entretien de la matinale. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
JO, France Télévisions est premier donc sur la ligne d'arrivée. Le groupe audiovisuel public décroche les droits de diffusion en exclusivité des Jeux Olympiques de Pékin 2022 et de Paris 2024. Bonjour Cédric Langros.
Bonjour.
Alors l'annonce a été faite hier soir sur Twitter par la patronne de France Télé, Delphine Ernot, tout sourire, aux côtés du représentant de Discovery. C'est le détenteur mondial des droits et c'est un gros coup pour France Télévisions.
Oui, surtout pour évidemment le cadre de Paris 2024, TF1 et M6 avait également déposé des dossiers et Discovery était même prêt à faire du à la carte ou presque, en tout cas à découper son produit. Les sports collectifs à forte audience comme le basket ou le handball sur une chaîne, les cérémonies sur une autre, les sports plus confidentiels sur une troisième, ça aurait pu être le cas mais non, donc finalement France Télé rafle tout. Bonne nouvelle pour Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux et ancien canoïste.
Je viens d'un petit sport, il n'y avait pas forcément beaucoup de médias qui s'intéressaient à mon sport, en dehors du service public, donc je trouve ça plutôt très bien. C'est un peu la magie des Jeux pour moi, c'est la diversité, on s'intéresse à tous les sports, à tous les sportifs.
Évidemment, le coût de la transaction a joué. Le montant n'a pas été dévoilé, mais on sait que Discovery, qui a acheté ses droits mondiaux à prix d'or, estimait que les Jeux valaient autant qu'un mondial de foot. 130 millions payés par TF1 pour celui de l'an dernier en Russie. L'offre de France Télé a joué aussi, cette offre globale que nous détaille Laurent-Éric Lelay, le directeur des sports.
Ça sera de la télévision linéaire sur France 2, sur France 3, mais ça sera également un dispositif numérique ambitieux, puisqu'on va faire une chaîne spéciale pour le numérique qui permettront à tous les Français de pouvoir voir gratuitement leurs Jeux Olympiques.
Précisons tout de même que c'est pas une immense nouveauté que France Télévisions diffuse les JO. Ça fait plus de 20 ans déjà que les Jeux Olympiques sont sur France 2 et France 3.
Merci Cédric et j'ajoute que pour les Jeux Paralympiques, les négociations continuent et là encore, France Télévisions fait partie des candidats.
Au Sri Lanka, Bernadette, le bilan s'alourdit encore.
310 morts, un Français parmi les victimes et au moins 500 blessés. Le pays est en deuil, 3 minutes de silence ce matin, drapeaux en berne, pays tétanisé, état d'urgence couvert. Feu. 87 détonateurs de bombes ont encore été découverts hier dans une gare routière. La police multiplie les arrestations. On en est à 40 ce matin. Alors qui derrière ce dimanche sanglant, 8 attaques simultanées, une telle ampleur, une telle organisation, peuvent-elles être le fait du groupe islamiste local qui est pointé par l'enquête ? Les spécialistes de l'islam radical en doutent, Olivier Poujade.
Du jour au lendemain, le NTJ serait passé de la petite délinquance au crime de masse, de la dégradation de statues bouddhistes à une attaque simultanée dans 6 lieux symboliques de la capitale sri-lankaise. Tout cela ne s'improvise pas. Dès les premières arrestations dimanche, le premier ministre sri-lankais a eu du mal à à croire qu'une si petite organisation puisse faire de tels dégâts. C'est aussi l'interrogation de Wassim Nasr, journaliste à France 24. Une collaboration avec d'autres spécialistes de l'islam radical de plusieurs pays lui a permis d'identifier parmi les kamikazes un jeune prédicateur relayant sur les réseaux sociaux le message radical de l'État islamique. Selon Wassim Nasr, les indices reliant les attentats de Colombo à une puissante organisation terroriste ne manquent pas.
Comme à Jakarta en 2016, où des membres de groupes radicaux locaux ont agi au nom de l'État islamique. Et aussi les attentats de Bombay en 2008, où un groupe local a assuré la logistique pour Al-Qaïda à l'époque pour agir.
Il y a encore peu de temps, le Sri Lanka avait aussi son lot de djihadistes ayant combattu en Irak et en Syrie, d'anciens travailleurs du Golfe, et les autorités ont aujourd'hui beaucoup de difficultés à contrôler leur retour au pays.
Olivier Poujade, 15 jours après avoir mis les gardiens de la révolution sur la liste noire des organisations terroristes, Washington durcit encore le ton contre le régime des mollahs. Donald Trump veut réduire à néant les exportations de pétrole de l'Iran. Dans une semaine, annonce-t-il, ce sera la fin des dérogations qui permettaient encore à 8 pays, dont la Chine, l'Inde et la Turquie, d'importer du pétrole. Et le secrétaire d'État Mike Pompeo prévient, si vous n'arrêtez pas les importations, il y aura des sanctions.
7h06, la suite du journal. Élections européennes, top départ pour le dépôt des listes.
À partir d'aujourd'hui, les partis ont donc jusqu'au 3 mai pour porter leur liste au ministère de l'Intérieur. L'électeur connaîtra ainsi les 79 candidats de chaque formation. Ce matin, 10h30, Laurence Perron, c'est l'ensemble de la liste communiste qui ouvrira le bal.
Un petit défilé à deux pas de l'Élysée en tenue.
En tenue de travail, des ouvriers, des infirmières, salariés en EHPAD, bref, la France telle qu'elle est.
Yann Brossal, tête de liste, n'est finalement pas parvenu à faire entendre à Benoît Hamon l'intérêt d'une liste commune.
J'ai beaucoup tendu la main jusqu'à en attraper des crampes, simplement je prends acte.
Le patron de Génération, lui, est certain de son fait. Une alliance avec les communistes pousserait, selon lui, une partie de ses électeurs vers l'attelage PS, place publique. Les socialistes refondés qui maintiennent encore un petit suspense sur leur liste. La campagne patine, les ténors sont divisés, pas d'agenda clair, des meetings peu convaincants et des sorties médiatiques parfois hasardeuses, comme celle de la tête de liste Raphaël Glucksmann, qui compare les leaders de la gauche à des videurs de boîtes de nuit qui lui dénieraient l'entrée dans le cercle de cette gauche. Pas sympa pour les videurs de boîtes de nuit, ironise le communiste Yann Brossa, tandis que les écologistes, muets pendant la crise des gilets jaunes et le grand débat national, se lamentent sur cette drôle de campagne européenne qui ne démarre pas alors qu'ils étaient tout fiers à l'automne d'être partis les premiers.
À un mois des élections pour le Parlement de Strasbourg, semaine européenne sur France Inter, avec des reportages, des décryptages, au téléphone sonne ce soir notamment, l'Europe étouffe-t-elle l'agriculture? Et un cliché sur l'Europe qui tombe, non, les Allemands ne travaillent pas plus que les Français. Le ministère du Travail a fait une enquête exhaustive sur toute l'Union européenne. Les Français sont sur le podium des plus travailleurs, troisième derrière les Britanniques sur la plus haute marche, et les Espagnols, un peu plus de 36 heures. 36,3 exactement de travail hebdomadaire pour les Français contre 34,8 pour nos voisins outre-Rhin. Alors qu'en France, ces derniers jours, elle monte, la petite musique du travailler plus. Le président de la République devrait en dire plus jeudi. Travailler plus pour financer les baisses d'impôts, supprimer un jour férié semble l'hypothèse la plus probable.
Y a-t-il un effet Notre-Dame sur la cote de popularité du président de la République, Bernadette?
C'est ce qu'a mesuré notre baromètre Doxa pour France Inter, au lendemain de l'incendie de la cathédrale. Avec 32% de Français convaincus par son action, le chef de l'État gagne 2 points, Maxence Lambrecq.
Cela n'a rien à voir avec les bonds de popularité de François Hollande au lendemain des attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan. Mais ce drame a tout de même éloigné les Français de la bataille politique et les a rassemblés autour de ce symbole. Plus 2 points d'opinion favorable, ça sous-entend aussi qu'Emmanuel Macron a trouvé les mots justes, la bonne attitude, une soirée au chevet de Notre-Dame, puis une intervention solennelle, consensuelle, pour celui qui appelait l'an dernier à réparer le lien entre l'Église et l'État et compte aujourd'hui sur l'électorat chrétien-démocrate pour ces élections européennes. À la vue de ce baromètre, on a l'impression que la séquence gilets jaunes est terminée. Le chef de l'État retrouve sa popularité du mois d'octobre, mais il a face à lui la délicate période des annonces, les résultats du grand débat. L'acte 2 du quinquennat va-t-il convaincre? En tout cas, les premières fuites n'ont pas crispé l'opinion. Aucun chiffon rouge, apparemment, dans les mesures que nous avons dévoilées la semaine dernière.
Sondage réalisé les 17-18 avril auprès de 1300 personnes sur Internet et à retrouver en intégralité sur franceinter.fr. Paludisme, un nouvel espoir, non pas de guérison, encore moins d'éradication de la maladie, mais de la contenir, alors qu'elle tue chaque année 450 000 personnes dans le monde, surtout des enfants. Et c'est justement sur les enfants qu'est lancé aujourd'hui au Malawi le premier test grandeur nature d'un vaccin expérimental, Daniel Messager.
Baptisé Mosquirix, ce vaccin qui doit bloquer la transmission du parasite à l'homme en fabriquant des anticorps s'adresse particulièrement aux enfants qui sont les premières victimes du paludisme. Il est composé de protéines de synthèse reproduisant une partie du parasite. On sait déjà qu'il n'aura qu'une portée limitée. Lors de tests préliminaires, des épisodes de paludisme n'avaient été réduits que de 39%. Alors pourquoi est-ce si compliqué de mettre au point un vaccin efficace? C'est en partie parce qu'il s'agit d'un parasite. Benoît Gamin, spécialiste du paludisme, dirige une équipe CNRS Inserm.
Le vaccin contre le paludisme, on en parle maintenant depuis des décennies. Malheureusement, le parasite responsable du paludisme, Plasmodium falciparum, est un parasite très complexe avec un cycle de vie qui comprend plusieurs hôtes, l'homme et le moustique. Et le parasite a 10 fois plus de gènes par rapport à un virus, ce qui rend encore plus complexe le fait de développer un vaccin contre le paludisme.
Preuve que la recherche avance quand même, cette équipe française travaille sur un autre type de vaccin pour protéger les femmes enceintes des effets pathogènes de la maladie. Les résultats seront publiés dans quelques mois. Mais un vaccin ne pourra à lui seul éradiquer le paludisme. Il faut aussi utiliser davantage de moustiquaires imprégnés d'insecticides.
Daniel Messager alerte sur le climat. L'ONG Global Witness demande un changement drastique des politiques énergétiques. Elle pointe notamment dans son dernier rapport les 5000 milliards de dollars d'investissements que projettent les grandes compagnies pétrolières dans l'exploration de nouveaux champs pétroliers dans la prochaine décennie. C'est aux antipodes de la lutte contre le réchauffement climatique. Son allure d'éternel adolescent a séduit les plus grands, Tarantino, Vincent, les frères Coen ou encore Scorsese. Après avoir joué dans plus de 60 films, le comédien Jonah Hill passe derrière la caméra. Il signe 90s, un magnifique film d'émancipation dans le Los Angeles des années 90. Corinne Pellissier.
Lui aussi a grandi à Los Angeles, lui aussi a fait du skate adolescent pour se trouver comme Stevie une tribu. Jonah Hill dans 90s raconte un peu son histoire, ce moment universel du passage à l'âge adulte où l'on se cherche une famille de cœur entre une partie de Street Fighter et un morceau de Cell Précis dans son Walkman. Autant de marqueurs des années 90 qui donnent au film tout son charme sans jamais en faire trop. Pas de fausse nostalgie, pas d'excès de skateboard, simplement le portrait d'un enfant timide qui voudrait bien s'émanciper d'une mère dépassée et d'un grand frère violent. Apprendre à tomber, à se relever, ce premier film 90s sera donc l'été de sa vie. Un magnifique vent de liberté, filmé en format carré, rempli d'adolescents branchés qu'on verrait bien sorti d'un film de Gus Van Sant sous Larry Clark, à l'image du fameux Stevie, Sonny Soljic, 11 ans, la révélation du film, qui derrière son bonnet et son pantalon trop grand crève l'écran.
Voilà, un petit peu de musique, 90s de Jonah Hill sur les écrans aujourd'hui, Ali.
Merci Bernadette Chamonaz, 7h13 la route.